Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Comment réussir là où Michel Barnier a échoué? C'est au tour de François Bayrou de tenter de faire voter un budget sans passer à la trappe. Et comme un homme averti en vaut deux...
Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous.
Le nouveau Premier ministre s'est entouré de sherpas chevronnés. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, et Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Pour l'ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations, l'État ne peut plus se contenter de gérer les affaires courantes.
L'administration fonctionne, la sécurité sociale fait ses remboursements, mais on ne peut pas engager de nouveaux projets, de nouvelles politiques. Donc c'est important que ce budget soit voté. Pour ça, il faut dialoguer, pour parvenir à un accord, ou à minima, un accord de non-censure.
Issu de la gauche, le ministre de l'économie mise sur un dialogue fécond, selon ses termes, avec le Parti socialiste, reçu dès hier à Bercy.
Nous avons rappelé quelles étaient nos priorités et que s'il n'y avait pas de concessions, qui étaient des concessions remarquables pour les Françaises et les Français, eh bien nous étions prêts à nouveau, à prendre nos responsabilités, y compris par la censure.
La primeur donnée à la gauche agace Marine Le Pen. La chef du RN, qui avait dicté ses lignes rouges à Michel Barnier, est attendue en fin de semaine à Bercy.
Le ministre de l'économie, qui commence avant même toute discussion à dire « Ah ben il y a quand même beaucoup de chances qu'on arrive à trouver des points communs avec la gauche et beaucoup moins avec le Rassemblement national », avant toute discussion, moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas très diplomate.
Alors au prix de quel compromis et avec qui le nouveau gouvernement parviendra-t-il à faire voter un nouveau budget? Comment programmer 50 milliards d'économies et éviter la censure? La France peut-elle tenir encore longtemps sans budget?
Trois invités, Benjamin Morel, bonsoir. Constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à Paris 2. Votre dernier essai, Le Parlement, temple de la République de 1789 à nos jours, chez Passé Composé. Et selon vous, la stratégie du ministre de l'économie de s'appuyer sur le PS n'est pas idiote. Cela permet de désamorcer l'opposition des socialistes tout en proposant des mesures de justice fiscale qui pourraient bien plaire à l'électorat RN. À côté de vous, Simon-Pierre Saint-Garac, bonsoir.
Bonsoir.
Co-directeur de l'Observatoire de l'économie de la Fondation Jean Jaurès. Selon vous, François Bayrou va échouer comme son prédécesseur. Allons bon, vous appelez Madame Irma. L'Assemblée n'a pas changé, le débat reste le même, on ne voit pas bien comment il pourrait s'en sortir. Rideau. Et à côté de vous, Béatrice Mathieu, bonsoir Madame, grand bonsoir. Reporter à l'Express, en charge des dossiers économiques. Selon vous, François Bayrou est en train d'essayer de négocier avec les lignes rouges imposées par les uns et les autres. Le chemin vers le budget s'annonce aussi compliqué pour lui, en somme, que pour Michel Barnier. Et on démarre avec le mot du jour, et ça n'est pas joyeux.
Oui, c'est chaos. Oui, c'est Olivier Faure qui en a soulevé l'hypothèse ce matin. Il faut un budget à la France sous peine de chaos, a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste. Sauf que Benjamin Morel a ce jour pas de budget, mais pas de chaos.
Non, pas de chaos. Et ça va être l'une des questions qui vont se poser. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, quand le budget arrivera réellement devant l'Assemblée nationale et que la question qui se posera, c'est censure ou pas censure? Ben, qu'est-ce qui a fait bouger notamment le Rassemblement national au mois de décembre? Ben, c'est que sa base électorale lui a dit « Écoutez, la prochaine fois, vous nous aviez promis Jordan Bardella et du pouvoir d'achat, on a Michel Barnier, une taxe sur l'électricité, si vous continuez comme ça, la prochaine fois, nous n'irons pas voter, et si nous n'allons pas voter, eh bien les députés RN, ils passent de 120 à 50. » Et donc, c'est toute la dynamique de Marine Le Pen vers 2027 qui a été obérée. D'où le fait que le RN, d'une certaine façon, a été amené à cette censure. S'il se passe la même chose dans quelques semaines, les mêmes causes produisent en règle générale les mêmes conséquences. Et dans ce cadre-là, le fait d'avoir dit « il n'y aura pas de carte vitale, il n'y aura plus de fonctionnaires, etc. », tout ça qui n'était pas vraiment réaliste, fait qu'aujourd'hui cet électorat est pour le moment anesthésié. Vous pouvez lui dire qu'en effet il faut un budget, on lui a déjà fait le coup, et donc il risque de à nouveau faire une pression vers la censure, d'où le fait que le gouvernement, certes, peut prendre soin du RN, mais cherche d'autres partenaires, d'autres alliés, parce qu'il sait très bien qu'en la matière, ça peut pas être un partenaire tout à fait fiable.
Oui. Alors vous allez très vite, là, politiquement, Béatrice Mathieu, sur le budget lui-même, elle continue à tourner, la France. On fait même des économies parce que des crédits ont été gelés, finalement.
Oui, alors il n'y a pas de chaos économique. Il y a un chaos politique, mais pas de chaos économique, parce que cette loi spéciale, en fait, a pu être votée
avant Noël.
Et ce qui permet à l'État et aux organismes de sécurité sociale de continuer à s'endetter pour payer eh bien, les salaires des fonctionnaires, que les hôpitaux, les tribunaux, la police, l'armée tournent, donc pas de, pas de chaos. Le problème, c'est qu'on était sur une tendance en fait, très nette de dégradation des finances publiques avec un déficit qui était supérieur à 6% du PIB, déficit public, qu'on sait très bien qu'il faut malgré tout, alors c'est les négociations qui sont en cours aujourd'hui,
malgré
c'est
sur le malgré tout, malgré faire tout, des économies.
Faire des économies, en tout cas, faire diminuer ce déficit, revenir vers ce chiffre magique des 3% du PIB. Alors, la discussion qui est en cours, en fait, c'est sur le rythme et le chemin emprunté pour revenir vers ces 3%. Et là, il y a 50 nuances de chemin possible, suivant si on appuie plus sur le volet des augmentations d'impôts, pérennes, pas pérennes, qui, etc. Ou si c'est sur essentiellement le volet de la dépense publique. Mais... Et c'est cet équilibre-là qui est en train de se jouer en ce moment.
Mais concrètement, Simon-Pierre Sangrac, qu'est-ce que l'État ne peut plus faire aujourd'hui faute de nouveaux budgets? C'est surtout des investissements, c'est cela? Alors, moins de fonctionnaires, moins d'embauches?
Alors, il y a effectivement la question des projets d'investissement. C'est difficile de lancer de nouveaux projets d'investissement. Et par ailleurs, il faut comprendre que donc, les plafonds de dépenses ont été gelés. Donc, l'État doit faire avec autant d'argent que l'année dernière, alors même que tout a augmenté. On peut dire d'une formule que le pouvoir d'achat, en mettant des guillemets, de l'État, c'est réduit. Donc ça, c'est compliqué. Par ailleurs, il faut aussi prendre en considération que l'avancement automatique des fonctionnaires fait qu'ils sont un petit peu mieux payés cette année que l'année dernière, ce qui accroît mécaniquement les dépenses. Par ailleurs, il y a le volet de l'État, mais il y a aussi le volet de la sécurité sociale qui, lui, coûte aussi énormément. Plus de la moitié des dépenses des administrations publiques sont les dépenses de la sécurité sociale. Et on l'a vu avant la coupure des vacances, on proposait la désindexation des retraites. Comme le budget de Barnier n'est pas passé, il y a bien eu indexation des retraites.
2,2%.
Donc, il y a tout un tas de prestations comme ça qui ont été revalorisées, qui fait que le coût est plus important de nombreux postes de dépenses.
Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna les gagnants, c'est ça, hein, les gagnants et les perdants.
Bien oui, parce que cette reconduction du budget 2024, vous l'avez dit en copier-coller, elle profite à certains et puis elle en dessert d'autres. Alors, parmi ceux qui gagnent, il y a, on vient de le dire, les retraités. Leurs pensions ont été revalorisées plus rapidement que prévu le 1er janvier. Ensuite, il y a les ménages les plus aisés. Ceux qui touchent, par exemple, plus de 500 000 euros par an pour un couple ne payeront pas la contribution fiscale exceptionnelle qui était prévue dans le budget Barnier. Et puis les entreprises, les grandes entreprises, échappent aux 20 milliards d'euros de taxes et de prélèvements obligatoires. Mais d'autres s'en sortent un peu moins bien. La classe moyenne serait la plus lésée, selon une note qui a été publiée par l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'était fin décembre. Le budget Barnier prévoyait de revaloriser le barème de l'impôt sur le revenu, justement pour permettre aux plus modestes de payer moins d'impôts. Et au lieu de ça, eh bien, ce barème est gelé jusqu'à nouvel ordre. Bercy a quand même tenu à rassurer les Français en disant qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts le 1er janvier, mais dans l'hypothèse où il n'y aurait toujours pas de budget au printemps, c'est-à-dire avant la déclaration d'impôts, l'OFCE estime qu'au moins 400 000 foyers non imposables l'année dernière pourraient le devenir. La ministre des Comptes publics, elle, parle plutôt de 600 000 foyers. Alors Benjamin Morel, est-ce que la vraie dette butoir, ça n'est pas celle d'avant la déclaration des impôts pour trouver un budget?
Alors, de manière générale, plus on passera de temps sans budget, moins ça se passera bien, pour les raisons qu'on a données. C'est-à-dire que dans l'idéal, on aurait pu d'ailleurs envisager d'avoir un budget avant le 31 décembre. Si on s'était dépêché pour nommer un successeur à Michel Barnier, il y avait à peu près un mois, c'était gérable pour reprendre les mêmes textes, puisque là, on repart des textes qui sont les textes qui ont été soit rejetés, soit enterrés, mis au congélateur, au mois de décembre. Donc, on aurait pu le faire, ça nous aurait simplifié la vie pour tout un tas de raisons. Maintenant, plus on le fait tôt, mieux c'est. Il est évident que d'un point de vue politique, si vous dépassez la date du printemps et que ces 400 à 600 000 foyers rentrent dans l'impôt sur le revenu, vous allez avoir un coup politique extrêmement fort pour le gouvernement et potentiellement pour les formations politiques qui auraient voté la censure ou n'auraient pas voté le budget. Donc ça peut être une convergence d'intérêts qui accélère la situation, mais il y a d'autres éléments qui peuvent faire également que ça se distorde.
Et ouais. Puis c'est 400 000 qui rentrent dans le barème, mais c'est l'ensemble des foyers,
400 000 foyers
qui voient leur impôt augmenter.
Ouais. Béatrice Mathieu, donc tout repose sur les épaules de l'homme-araignée, Spider-Man, c'est comme ça qu'il s'est auto-défini, le nouveau ministre de l'économie, qui est-ce ? Comment vous le décrivez en trois lignes ? Éric Lombard.
Éric Lombard, alors un homme qu'on a qualifié donc de gauche, qui vient...
Oui, qui a été qualifié de gauche, qui aurait l'oreille de Laurent Berger, d'Aurélie Trouvé, de LFI, etc.
Voilà.
Bref.
Est aussi un banquier, en fait. Mm-hmm. Il a donc dirigé la Caisse des dépôts. C'est quelqu'un qui connaît très, très bien le tissu économique. Mm-hmm. Parce que ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on fait un copier-coller du budget dans une situation conjoncturelle de 2025, avec des prévisions de croissance qui sont bien moins soutenues que 2024. Et lui, il le sait très bien, parce que la dégradation de la situation financière des entreprises, la Caisse des dépôts finance beaucoup d'entreprises, en fait. Lui, il l'a vu jusqu'à récemment quasiment tous les jours, avec cette, on peut dire, cette explosion des défaillances d'entreprises et des plans sociaux qui sont associés. Donc, il connaît très bien la situation conjoncturelle.
Il semble tendre la main au Parti socialiste. Parti socialiste qui a des doléances quand même très importantes. Hein. On va entendre Boris Vallaud, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale.
Qu'il y ait de la justice fiscale, c'est heureux. Il faut aller au-delà de ce qui a été annoncé. Qu'il y ait de la justice sociale, c'est nécessaire. On l'attend. Qu'il y ait plus de moyens pour nos services publics. Nous savons la crise de l'hôpital public. Nous savons les intentions de supprimer des postes dans l'éducation nationale, alors que nous avons des besoins partout dans le pays. Nous savons l'urgence environnementale. Eh bien, ce sont tous ces sujets-là que nous mettons sur la table.
Simon-Pierre Sangirac, la liste est longue tout de même. Hein. Ouais. Comment le nouveau ministre peut les accepter, même s'il est un ami d'Olivier Faure et qu'il est issu de la gauche ?
Bah, si vous voulez, je pense que la situation de Bayrou, elle est assez simple. Il a deux voies pour éviter la censure. Mmh. C'est soit de faire un budget qui est favorable à l'extrême droite, soit de faire un budget qui est favorable à la gauche. C'est les deux seuls poids suffisants au Parlement qui permettent d'éviter la censure. Donc soit on s'oriente vers les concessions que demande notamment le Parti socialiste, mais les autres également, soit non. Si on s'oriente vers ces concessions, eh bien, il faudra, à mon avis, revoir certains des éléments, pas tous, tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, mais certains des éléments du programme du Nouveau Front Populaire, et ils en ont évoqué quelques-uns. Par exemple, on pourrait revoir la fameuse réforme des retraites qui est très impopulaire, non pas pour la supprimer, mais pour revenir sur certains éléments, comme par exemple l'âge de la retraite aux 64 ans.
Ça, c'est pas rien. Certains éléments, c'est l'élément fondamental.
C'est la clé. Oui. Enfin, c'est un élément fondamental.
C'est à la fois la clé politique, mais ça peut tout à fait être compensé économiquement.
Mais
par une
ça vous semble crédible?
Vous, non, je pense que, alors là, pour le coup, revenir sur les 64 ans aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a les lignes rouges mises par le RN, les lignes rouges mises par le Nouveau Front Populaire, mais il y a aussi les lignes rouges mises par les marchés financiers, les agences de notation, les lignes rouges implicites de l'Union européenne. Et donc, nos engagements européens, avec la feuille de route qu'on a redonnée il n'y a pas si longtemps que ça à Bruxelles, on peut dire que ce n'est pas grave, pendant des années, on a donné des feuilles de route, on n'en a jamais respecté aucune, d'accord. Il n'empêche qu'on ne peut pas, aujourd'hui, au niveau européen, demander à ce qu'il y ait un nouveau grand emprunt, dire qu'il faut plus d'Europe, convaincre nos amis allemands de faire un nouveau grand emprunt pour financer la défense européenne, etc. Et de dire, bah, nous, on se lave les mains, vous faites vos réformes chez vous, mais nous, on n'en fait aucune, et les 64 ans, on ne le fera même pas, alors que l'Allemagne réfléchit à une retraite à 67 ans.
Je peux préciser d'un mot, il y a un chemin qui existe. Alors, ce n'est pas une autoroute, c'est plutôt un petit sentier de campagne, mais ce n'est pas une impasse. Il y a la possibilité à la fois de réduire les déficits tout en faisant davantage de justice sociale. On peut très bien compenser une mesure symbolique comme le retour de la retraite à 62 ans, quitte à compenser par des mesures de hausse de fiscalité ciblée. Et à la Fondation Jean Jaurès, si je termine d'un mot, on a travaillé là-dessus. Mmh. On peut trouver des mesures comme une réforme sur les grandes transmissions, par exemple, comme des économies
héréditaires
et des économies budgétaires qui sont souvent des effets d'aubaine, comme par exemple les aides à l'apprentissage ou les exonérations de patronales au-delà de 2,5 SMIC, par exemple. Bah. Et tout ce qu'on pense, il suffit de faire l'arithmétique. Et à la Fondation Jean Jaurès, on l'a fait, ça passe. C'est un corridor fin, mais ça passe.
Ouais. Et la politique, c'est pas que de la technique. La politique, c'est des symboles. Or, il faut bien comprendre quelles sont les contraintes.
Par rapport au départ de l'âge.
Quelles sont les contraintes des différents acteurs ? Du côté du RN, on l'a dit, Marine Le Pen, elle cherche aujourd'hui à avoir un électorat plus centriste. Donc, elle n'a pas intérêt à la censure, sauf si sa base électorale la pousse vers cette censure. Si vous lui donnez des éléments qui permettent à sa base de dire ne censurez pas, ce serait mieux quand même, parce que le budget, c'est pas si mal, eh bien, elle ne censurera pas. L'objectif, c'est de donner le sentiment qu'il peut y avoir un budget qui est un budget de justice sociale, etc. Le gouvernement met en avant ça aujourd'hui, pas tant pour plaire à Marine Le Pen en tant que telle, mais pour désactiver la colère de son électorat.
Il joue l'opinion, en fait. C'est ça que vous nous dites, finalement.
Il joue l'opinion de l'arbitre pour Bayrou. Il joue en partie l'opinion de l'électorat RN. Parce que
RN seulement, pas des Français, globalement.
De l'autre côté, l'objectif, non, pas forcément, parce que l'opinion des Français ne vous empêche pas d'être censuré. L'opinion des Français,
entre guillemets, peut faire pression parce qu'elle dit on ne veut plus de cette situation et de
l'avis de ce chaos. L'avis de l'électorat de gauche pour Marine Le Pen n'est pas très important. Ce qui compte, c'est sa propre base électorale et sa démobilisation potentielle.
Donc c'est plus du côté du RN que ça se joue.
Du côté de la gauche, il y a un autre impératif. En fait, si jamais le RN, si jamais le Parti Socialiste ne vote pas la censure, qu'est-ce qui va se passer ? Dans toutes les circo-socialistes, vous allez avoir des jolies affiches marquées La France Insoumise, où il sera écrit, s'il y a Bruno Retailleau, c'est de la faute à qui ? C'est de la faute du Parti Socialiste. S'il y a Gérald Darmanin, c'est de la faute à qui ? C'est de la faute du Parti Socialiste. Exactement. Si jamais il y a un budget d'exil d'austérité, avec quelques éléments qui seront mis en avant par La France Insoumise, c'est de la faute à qui ? C'est de la faute du Parti Socialiste. Qu'ont besoin les socialistes pour ne pas rentrer dans une logique de censure ? Ils ont besoin d'un élément qui soit un élément extrêmement symbolique. Et là, on retrouve les 64 ans. Si les socialistes arrivent à dire « nous avons obtenu le retour à un âge inférieur à 64 ans », ils peuvent tenir la dragée haute aux insoumis dans les circos, et en cas de dissolution, eh bien, ils sont un peu moins en difficulté.
Vous êtes convaincu ?
C'est l'objectif.
Pas du tout. Je pense qu'ils ne reviendront pas sur l'âge des 64 ans. Ils peuvent faire des ouvertures sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, exiger davantage d'engagement de la part des entreprises sur ces sujets-là. Revenir sur ce symbole-là des 64 ans, d'autant plus que financièrement, effectivement, je suis d'accord avec vous, vous pouvez trouver d'autres recettes, financer autrement, jouer davantage d'ailleurs sur le nombre d'annuités et non pas sur l'âge de départ, faire ce qu'on appelait de la réforme Touraine, etc. Voilà, bien sûr. Et ce qu'aurait accepté d'ailleurs la CFDT. Mais vous n'avez pas les gains financiers tout de suite.
Oui. Et puis en plus, c'est un gage donné à l'Europe. Simon Pierre-Sangarque, c'est pas rien. C'est un gage donné à l'Europe.
C'est un gage donné à l'Europe. Et à un moment où tous les pays européens ont repoussé l'âge de départ. Il y a quand même un fait démographique. Les faits sont têtus.
Vous pensez à l'Italie, vous pensez à des pays comme ça.
Bien sûr.
Sur les engagements européens, il faut aussi rappeler que la copie Barnier, qui proposait, rappelez-vous, 60 milliards d'efforts côté fiscalité et côté économie de dépenses, était excessive au regard de ce que réclamait la Commission européenne. Donc là, le gouvernement actuel table plutôt sur environ 50 milliards d'euros. C'est un petit peu moins, mais ça reste quand même beaucoup. Moi, je préfère rappeler ce que, dans un article du Point, François Eckhall et le précédent chef économiste du FMI proposaient, 150 milliards d'euros d'économies, mais étalés dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les économies budgétaires cassent la croissance et détruisent l'emploi. L'OFCE l'avait chiffré à l'automne à 160 000 destructions d'emplois s'il y avait la copie Barnier qui était mise en œuvre. Donc oui, il faut faire des économies. Les dérapages budgétaires, il y en a eu trop et on s'oriente vers une troisième année consécutive de dérapages budgétaires. Mais étalons dans le temps l'effort budgétaire pour que la France à la fois retrouve de la crédibilité à l'international, vous l'avez évoqué, mais aussi que ça se fasse avec de la croissance et sans trop de casse.
Justement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le pataquès, c'est le psychodrame que l'on a sur le budget aujourd'hui, c'est on va l'avoir l'année prochaine, l'année d'après, l'année suivante, etc. C'est pas une année de psychodrame, de défi, c'est justement la notion de faire des économies dans la durée.
C'est dans la durée.
C'est dans la durée.
C'est répétitif.
Donc c'est ça.
Alors attendez, on va vous montrer une archive à propos de François Bayrou pour faire adopter son budget. On sait qu'il cherche donc un compromis. Ça n'a pas du tout toujours été le cas. Regardez, en 2005, il était patron de l'UDF et il affichait sa rupture avec le gouvernement Villepin en l'assumant et en votant contre le budget.
Avec un allié comme François Bayrou, le gouvernement n'a pas besoin d'ennemis. Cet après-midi, le président de l'UDF et une majorité de députés centristes ont voté contre la première partie du budget 2006, la partie recettes, une déclaration de guerre, une rupture avec l'UMP.
C'est une prise d'indépendance forte. Si l'on veut proposer au pays un chemin différent de celui qui est suivi depuis des années et des années par les socialistes d'un côté, par l'UMP et la droite de l'autre, il faut en effet être capable de prendre une indépendance définitive et absolue.
Dans l'hémicycle tenu par l'UMP, le budget recette est bien adopté.
Pour 336 contre 187.
Mais le parti majoritaire n'a guère apprécié.
Benjamin Morel, on peut imaginer que François Bayrou se prenne en exemple auprès des socialistes et dit voilà, vous pouvez aussi faire ce que j'ai fait dans le passé, voter pour mon budget et vous affranchir ainsi des insoumis au risque de faire exploser le NFP.
Non, parce que ce n'est pas tout à fait la même logique. Vous savez, quand on s'amuse à se demander est-ce qu'un groupe politique est dans la majorité ou dans l'opposition, oui. quand on fait de la politique comparée, les politistes ont des amusements bizarres. Le critère qu'on retient, ce n'est pas les motions de censure, c'est le budget. Si je vote le budget, je suis dans la majorité. Si je vote contre le budget, je suis dans l'opposition. Le principal élément d'un pacte de coalition, c'est voter le budget. Vous pouvez ensuite être en discordance sur des textes, mais vous votez le budget, quoi qu'il arrive. Si vous ne le votez pas, vous êtes dans l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne ? Le FDP n'était pas sûr de voter le budget, donc on a voté un budget à minima et on a dissous. Et donc, là, aujourd'hui, que feraient les socialistes s'ils votaient le budget ?
Oui.
Ils diraient qu'ils sont dans la majorité. Mmh. Donc, ce vers quoi on se dirige,
ils le diraient provisoirement. Pour vous, non. Ils le seraient définitivement, aux yeux de l'opinion, pas forcément.
Du point de vue politique, oui. ils adopteraient le budget et donc ils seraient dans la majorité. Oui. Ce vers quoi on se dirige, ce n'est pas vers un vote des socialistes du budget, ni du RN. Mmh. C'est vers une non-censure d'un gouvernement qui présenterait sa responsabilité via 49 alinéa 3 sur ce budget. Ouais. C'est un peu autre chose, mais c'est quand même très engageant. Ouais.
Hein, d'un mot, simplement rappeler également que, contrairement au gouvernement, les députés disposent aujourd'hui de la légitimité politique, parce qu'ils ont été élus, et il y a moins d'un an. Donc ils se sentent aussi, peut-être naïvement, pris de ce contrat vis-à-vis de leurs électeurs, de respecter ce pourquoi ils ont été élus. Donc les députés de gauche, le programme du NFP, les députés du centre, etc. Donc ils ne peuvent pas se dédire trop fortement au moment du vote du budget.
Donc ils ne peuvent pas trouver de compromis.
Je pense que l'idée de Philippe Brun d'un pacte de non-censure est assez maligne en ce sens. C'est-à-dire que chacun doit mettre de l'eau dans son vin parce que ouais. personne n'a la majorité, mais chacun définit finalement une sorte de dénominateur commun, un socle aussi modeste soit-il, peut-être un cure-dent, sur lequel le gouvernement
enfin, tout peut reposer.
Mais après le corridor, le cure-dent. Et tout ça à une semaine du discours de politique générale de François Bayrou.
Oui.
Non, le 14 janvier.
Tout à fait. Ça montre le chaos politique et l'incertitude énorme dans laquelle on est. Incertitude qui a un coût économique certain. Hein. Dans tous les milieux économiques, que ce soit les PME, les grandes entreprises. N'ont aucune visibilité, notamment.
On emprunte plus cher aujourd'hui.
Donc, d'une part, on emprunte un petit peu plus cher. Et puis, ce climat d'incertitude joue énormément sur les projets d'investissement qui sont soit décalés, soit annulés.
Et les Français épargnent de plus en plus.
Les Français épargnent de plus en plus. Et ça, c'est un sondage. Ce taux d'épargne record des Français est un sondage de.
Mais il faut que Bayrou ait tout ficelé avant la semaine prochaine.
Bon. Tout ficelé, peut-être pas, parce qu'on repart du budget Barnier. Hein, et donc, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'on a déjà une base. Ensuite, la question, c'est quelles concessions vous allez faire.
Très
bien. Il faut que les concessions, elles soient dans la déclaration de politique générale.
Eh bien, on en reparle la semaine prochaine. Alors, merci à tous les trois d'être venus débattre et d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.